Ça fait plus de 20 ans que je soutiens des familles dans des services de néonates, d'abord à Neuilly et ensuite à Robert-Debré en réanimation polyvalente. Pendant le temps de l'hospitalisation, je suivais ces petits bébés et leurs familles et à chaque fois je me disais mais qu'est-ce qu'ils deviennent après? Or moi après la sortie de l'hôpital, je ne les voyais plus. Donc quand on m'a proposé de venir à Antoine Béclair suivre les bébés après l'hospitalisation, j'étais vraiment très contente parce que je me suis dit je vais enfin avoir la réponse à mes questions. Quand je suis arrivée ici, en fait, j'étais toute seule, il n'y avait rien d'organisé, ça n'existait pas avant moi, ce travail qu'on me demandait, donc il fallait improviser. Alors, ce que je vais plutôt dire, c'est ce que je fais maintenant, parce que ça a évolué dans le temps, depuis 7 ans que je suis là. Disons que maintenant, je partage mon temps entre des consultations conjointes avec des pédiatres, et puis des consultations plus classiques de psychologues, enfin, à la demande des familles, soit adressées par les pédiatres, soit à ma demande aussi, parce que dans le cadre des consultations conjointes, bon, c'est limité le rôle de la psychologue quand même. Même si je participe, si ma place est bien acceptée par les médecins, bien reconnue, quand il y a par exemple un problème de sommeil qui est évoqué au cours de la consultation, bon, on ne peut pas, au cours d'une consultation pédiatrique, même si elle dure 3 quarts d'heure, 1 heure, explorer ce problème de sommeil suffisamment à fond. Donc je dis aux gens, bah, écoutez, ça c'est bien, on va en reparler, vous prenez rendez-vous, on va se revoir pour en reparler. Donc ces consultations conjointes sont pluridisciplinaires. Il y a aussi la psychomotricienne qui participe à ces consultations. Donc moi, ça m'a permis d'avoir accès à davantage de familles. Au début, je participais pas à ces consultations. Et j'avais une espèce de boulimie de voir le plus possible d'enfants nés prématurément pour savoir ce qu'ils devenaient. C'était un peu ça, j'étais un peu boulimique de les voir. Et puis, donc j'ai proposé de participer aux consultations et ça s'est fait insensiblement, sans problème, quoi. Je me suis fait petite au début, puis de plus en plus, j'ai pris ma place. Et puis ça s'est bien passé, les médecins finalement sont contents d'être aussi soutenus dans leurs consultations. Parce que c'est des consultations pédiatriques un peu particulières. C'est plus un examen du développement de l'enfant. Donc ils sont souvent un peu démunis eux-mêmes par rapport à ça. Donc moi je leur apporte des points de repère. Donc ils sont plutôt contents que je sois là en général. Alors mes consultations de psychologue, bah, c'est des consultations lambda. Ça peut être très varié. Ça peut être... En fait moi j'avais pondu un petit papier qui était mis dans le carnet de santé des familles, des enfants plutôt, à la sortie de l'hôpital. Et là, je me présentais sur ce petit papier, je leur disais que 1 ou 2 mois après la sortie, je serais contente de les revoir et que j'étais à leur disposition avant, après, enfin, quand ils voulaient. Et j'essayais en plus d'aller me présenter dans le service aux familles, puisque moi j'ai une collègue qui fait le suivi, enfin qui soutient les familles pendant le temps de l'hospitalisation. C'est pas moi qui fais ça du tout. On s'est partagé le travail avec Marie-Antoinette Bouguin qui fait ce travail dans le service. Et donc je vais me présenter en me disant ça sera quand même mieux s'ils connaissent ma bouille, si je leur explique de vive voix, ça sera plus parlant. Mais j'y arrive qu'à moitié à aller voir tous avant la sortie. Donc on met ce petit papier dans le carnet de santé. Et puis, ces enfants ont presque tous rendez-vous avec des pédiatres après. Et donc moi, ceux que j'ai pas vus, je me présente dans ces consultations pédiatriques aux familles. Donc j'ai accès à beaucoup de familles comme ça. Et j'en suis dans des consultations plus classiques, beaucoup moins, évidemment. D'abord parce qu'ils n'ont pas tous besoin de psychologues, heureusement pour eux. Et puis qu'ensuite, il y a des enfants qui viennent de loin. Donc je réoriente souvent sur d'autres services, sur des CMP, des CMPP, sur des collègues, dans des hôpitaux, etc. Sur les psychologues de proximité. C'est vrai qu'on en a de plus en plus, hein, des grands prématurés, très grand prématuré, 24-25 semaines d'aménorrhée. En vue de cet entretien, j'ai un petit peu recompté tous les enfants que j'ai vus ces 6 dernières années, c'est-à-dire de 2000 à 2005. J'ai eu à peu près 45 en 24 semaines. Enfin, il y a eu dans le service 45-25 semaines, dont à peu près la moitié sont décédés dans le service. Et les autres, je ne les ai pas tous suivis, hein. Pas tous, j'en ai suivi une quinzaine à peu près. Je parlais en fait des 24 semaines des enfants nés à 24 semaines d'aménorrhée. Les 25 semaines, il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Sur ces 6 ans, il y en avait une soixantaine quand même. Et même si on remonte un peu plus loin, parce que c'est année par année, ça peut varier. Alors, c'est plutôt 25, dans les petites statistiques que j'ai refaites sur ces 6 dernières années, c'était 25% des enfants admis en réanimation, parce qu'il peut en mourir en salle de naissance. Hein. C'est à peu près 25%. 50% pour les 24 semaines. Bon, tous ces chiffres, il faut les prendre avec beaucoup de prudence, c'est des ordres de grandeur. Les chiffres sur lesquels ils portent sont quand même peu nombreux, donc ça peut varier d'une année sur l'autre facilement. Par exemple, je voyais les 24 semaines, c'est en 2005, donc l'année dernière, il y en a eu 5 simplement dans le service, et sur les 24, j'ai bien dit les 24, il y en a 4 qui sont décédés sur ces 5. Alors que les années précédentes, il y en avait plus qui survivaient. Donc moi, je me suis quand même posé la question s'il n'y avait pas une évolution un petit peu aussi dans la façon dont les médecins prennent en charge ces bébés, avec peut-être plus de prudence, plus de réticence, ce qui se fait aussi dans d'autres services, enfin, ce qui rejoint un peu. Alors, 24 semaines, ça peut être 500-600 grammes, hein. 700 grammes. Est-ce que je peux vous parler un petit peu du réseau de soins qui a été créé à Antoine Béclair et puis de l'association l'ASNR aussi? Alors en fait, tout ça vient de l'initiative du professeur Michel Dehan, qui a longtemps été le chef de service de la réanimation néonatale et qui l'a quitté il y a quelques mois seulement, et de Véronique Zupan-Simunec, qui est praticien hospitalier dans le service et qui avait une volonté très très ferme qu'il fallait avoir pour mener à bien ce projet d'aider ses enfants après la sortie de l'hôpital. Donc elle a commencé avec le soutien du chef de service à essayer de mettre au point des fiches, une fiche commune pour tous les pédiatres, pour un bilan à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, etc. Et là, elle a rencontré un accueil favorable de 2 autres pôles hospitaliers, Neuilly et Évry. Docteur Repère à Neuilly et le docteur Michel Granier à Évry. Et petit à petit, ils se sont réunis et ils ont créé l'association de suivi des nouveau-nés à risque, mais qui a vu le jour en début 2003, donc c'est quand même tout récent. C'est une association qui regroupe des professionnels et des parents. C'est un petit peu l'originalité de cette association, avec le but d'aider les familles pour les parents, de se soutenir entre eux, et pour les professionnels, d'organiser le suivi, la prise en charge des enfants qui auraient éventuellement des difficultés. Et cette association, la SNR, a été la promotrice d'un réseau de soins, qui donc géographiquement est pour l'ouest et le sud de l'Île-de-France. Donc un réseau de soins, c'est une structure où des professionnels de santé coordonnent leur action au bénéfice du patient. Donc dans ces acteurs, ces professionnels de santé, il y a les médecins bien sûr, mais il y a les rééducateurs, orthophonie, kiné, psychomote, orthoptiste. Il y a les psychologues, les assistantes sociales. Enfin, il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui est regroupée au sein de ce réseau de soins. Et le but, c'est donc de faire un suivi prolongé jusqu'à 7 ans. Alors, pour le moment, c'est jusqu'à ce que les enfants sachent lire et écrire. C'était ce que le docteur Zupan avait fixé comme limite, parce que bon, ce serait peut-être intéressant de les suivre encore plus, mais on ne peut pas tout faire. Donc on les suit jusqu'à ce qu'ils sachent lire et écrire. Donc CP, CE1, ça dépend. Voilà, j'ai très peu de tests et je tiens pas à en avoir beaucoup plus, parce que c'est pas la partie que je préfère de mon travail. Les tests, c'est le Brunelleisen, des échelles de développement, et puis les échelles de Wechsler. Le Brunelleisen, j'en fais un petit peu à la chaîne, presque automatiquement dans les consultations conjointes avec les pédiatres. Parce que justement, je leur donne des points de repère du développement de l'enfant à 1 an, à 2 ans, c'est ce qu'on fait. Après, 3-4 ans, c'est limite pour le Wechsler, parce que pour les enfants qui ont un petit peu de mal à rattraper leur retard. Alors on a ces fameuses fiches qui ont été élaborées par les médecins, et des psychologues, etc., et qui nous servent, c'est un peu bricolé, elles ne sont pas vraiment validées, elles ont été quand même testées sur un grand nombre d'enfants, mais il n'y a pas une validation officielle de ces fiches. Ces fiches, alors, elles comportent des informations sur l'environnement de l'enfant, sur sa santé, pour les médecins qui voient les problèmes respiratoires, digestifs, etc. Et en ce qui me concerne, moi, il y a tout un paragraphe sur le développement moteur, le développement cognitif, sur le comportement de l'enfant en société, sur les problèmes de sommeil, d'alimentation, sur les problèmes relationnels. Donc à chaque fois, pour tous ces items, il y a un score, en fait, de 1 à 4 de gravité. Donc voilà, c'est les médecins qui remplissent ces fiches, c'est pas moi. Mais disons, quelquefois avec mon aide, quoi, mais c'est pas moi. Ces fiches... Le réseau de soins, il n'est en fonction que depuis un an, un peu plus d'un an, janvier 2005. Donc les premiers bébés ont été inclus en janvier 2005, donc ils ont maintenant, les premiers, ils ont un petit peu plus d'un an. Et donc j'interrogeais le docteur Zupan qui m'a dit on a à peu près inclus en ce moment 450 enfants dans ce réseau. Et comme retour à un an de fiches, on a une soixantaine de fiches. Il y a 3 pôles hospitaliers, il y a Neuilly, il y a Évry et Clamart. Et tous ces 3 pôles hospitaliers sont en lien avec des praticiens du secteur libéral, des pédiatres libéraux, des acteurs du domaine psycho-médico-social, des rééducateurs... et d'autres hôpitaux qui sont dans leur aire géographique. Donc les PMI, les centres hospitaliers de moins grande importance, etc. Donc les enfants, quand ils sortent d'ici, alors sont inclus dans ce réseau, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir tout ça, sont inclus dans ce réseau les enfants qui ont moins de 33 semaines ou moins de 1500 grammes. Donc, s'il peut y avoir des retards de croissance intra-utérin importants, qui ont un terme plus important, mais qui sont quand même inclus dans le réseau. Et puis aussi des bébés qui ont eu des difficultés dans la période périnatale. Mais bon, comme on est centré sur les prématurés, je ne parlerai pas trop de cela. Donc, en sortant d'ici, les parents, on leur explique le fonctionnement du réseau, on fait un dossier, on essaie d'obtenir leur accord. En général, ils sont quand même plutôt demandeurs de cette attention qu'on leur porte après. Et à la sortie, il y a un médecin traitant qui suit le bébé, donc un médecin traitant comme tous les médecins traitants, et ce qu'on appelle un médecin pilote, qui lui est un pédiatre, qui a été formé à ces consultations où il essaie de dépister un peu les troubles du développement des enfants. Alors cette formation, elle est organisée par l'association de suivi des nouveau-nés à risque. Donc ces pédiatres reçoivent un petit complément de financement pour faire des consultations plus longues. Parce qu'on ne peut pas faire ça, ça prend quand même trois quarts d'heure, une heure de faire ces consultations de repérage des troubles du développement à 1 an, à 2 ans. Donc, ils sont suivis donc, par leur médecin traitant normalement, plus ce médecin pilote qui les voit à la sortie, tout de suite à la sortie, pour prendre contact, voir s'il y a un fit entre le médecin et la famille, parce que quelquefois ça ne marche pas. Et ensuite, il les revoit vers 6 mois à peu près d'âge corrigé, 6-8 mois d'âge corrigé. Ensuite, une fois tous les ans, 1 an, 2 ans d'âge corrigé, puis après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Bon, en principe, ça s'arrête là. Ça, c'est le calendrier du suivi dans le cadre du réseau. Alors, il y a d'autres réseaux, oui, il y a d'autres réseaux. On n'est pas les premiers. Hein. En Loire-Atlantique, il y en a un qui fonctionne bien. Je ne connais pas trop les autres, hein, mais il y en a d'autres. Mais je crois qu'on a pris conscience quand même que c'était une population à risque, c'est prématuré. Enfin, l'enquête épipage, il y a une étude prospective qui a démarré en 1997 sur les 22-32 semaines d'aménorrhée. Et ils ont le groupe parisien à essayer de retrouver, parce qu'il y a beaucoup de perdus de vue dans toutes ces études, pourcentage important, hein, plus de 30% de perdus de vue. Nous, on avait beaucoup d'enfants aussi qu'on n'arrivait pas à suivre. Donc le but du réseau, c'est aussi d'avoir un taux de perdus de vue moins important, enfin d'essayer de suivre plus d'enfants. Et pourquoi c'est important de suivre ces enfants qu'on ne suivait pas d'habitude? Parce que cette enquête épipage a mis en évidence, ils sont allés rechercher tous leurs... eux, ils appellent ça des mauvais répondants. Moi, j'aime bien appeler ça des perdus de vue. Tous ceux qui ne répondent pas aux questionnaires, aux convocations, ils sont à la force du poignet, j'ai l'impression. Ils sont allés les pister un peu partout. Et ils se sont aperçus que majoritairement, ces familles qui étaient perdues de vue étaient en grande difficulté. Très grande précarité sociale, économique, médicale, même psychiatrique, enfin bon, vraiment en grande difficulté dans tous les domaines, et que les enfants étaient parmi les plus grands prématurés. Donc, on ne pouvait pas faire l'hypothèse que ces perdus de vue se dispatchaient sur la courbe comme les autres. Non, c'est pas les mêmes que les autres de l'échantillon. Donc, en fait, on s'aperçoit que dans toutes ces études, on sous-estime le taux de séquelles des très grands prématurés. Parce que, justement, il nous manque toutes ces informations. Et je trouve que là, l'épipage a fait un travail très intéressant. On pouvait en faire l'hypothèse, mais là, au moins, on en a la confirmation. D'où l'intérêt du réseau pour essayer de suivre ces enfants-là. Alors... Oui, j'étais toute contente de venir faire ce travail en me disant, ça y est, je vais savoir, enfin. Bon, je sais un petit peu plus. Je sais pas grand-chose quand même, parce que moi, ce qui m'a frappée, c'est que ces enfants, il y a une grande diversité d'enfants. Diversité liée d'abord aux aptitudes innées, qui sont différentes d'un enfant à l'autre. Diversité liée à leur histoire. Histoire pendant la grossesse, histoire pendant l'hospitalisation, à l'environnement familial, social. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui... Il n'y a pas que la prématurité qui joue dans leur développement. Il y a tout un tas d'autres facteurs. Comment faire la part de l'un de l'autre, c'est bien difficile. Au début, j'étais un peu perdue. On trouve quand même des lignes de force, hein, mais... je méfie beaucoup quand même des généralités sur les prématurés, parce qu'ils sont quand même très divers, ils sont très environnement dépendants. Hein, l'environnement va, d'où à nouveau, je reviens au réseau, importance de les suivre. Parce que si on leur apporte la bonne aide au bon moment, ils iront mieux que si on s'en aperçoit au CP qu'ils sont en échec scolaire. Donc, diversité de ses enfants. Et puis le temps, le fait d'avoir 7 ans de recul, ça m'a appris qu'il y avait certaines familles, je me disais, ils sont dans des difficultés durables, ils sont déstabilisés durablement. Et puis 5, 6 ans après, 7 ans après, eh bien, ces familles retombent sur leurs pieds. Donc ça m'a beaucoup intéressée aussi, parce que je me suis dit, il ne faut pas non plus aller trop vite en besogne et condamner, entre guillemets, les enfants et les familles. Il y a des petits bébés très persécuteurs qui deviennent, au fil du temps, des petits-enfants qui donnent tout à fait satisfaction à la famille, qui trouvent leur place et où les relations se passent normalement, enfin, bien. Donc ça, je trouve ça aussi, c'est intéressant, ça enseigne la prudence quand même. La prudence. Bon, alors, faut pas nier qu'il y a quand même des difficultés chez ces bébés, qu'il y en a plus que chez les enfants à terme. Hein. Alors, quel type de difficultés ? Comment est-ce qu'on peut les répartir en ces troubles du développement ? On peut les répartir en deux grandes catégories : les troubles dits cognitifs et puis, disons, les troubles du comportement. Alors, il faudrait que je précise un petit peu avant que moi, je ne suis finalement concernée que par les bébés qui, avant, étaient considérés comme allant bien. C'est-à-dire que parmi cette population de très grands prématurés, on peut dire qu'il y en a 15 à 20% qui ont des difficultés avérées, même quelquefois lourdes, même s'il y en a de moins en moins qui ont des difficultés très lourdes, mais qui ont des difficultés avérées, 15 à 20%. Ceux-là, ils sont dépistés tout de suite, même j'allais dire presque avant la sortie. À la sortie, ils sont orientés vers des services spécialisés, les centres d'action médico-sociale précoce, les CAPS, les services de soins à domicile, enfin, etc. Donc ceux-là, j'allais dire, moi, je les vois pas, quasiment pas, parce que c'est pas mon boulot, ils sont déjà pris, je vais pas me surajouter à des prises en charge qui sont déjà très lourdes. Qui m'intéressaient et ceux pour lesquels j'ai été embauchée, c'est tous les autres, les 80-85% restants, ces enfants, dont à 2 ans, je voyais les comptes rendus des médecins, ils disaient ça va, ils sont bien. Et puis moi, je me disais, au début, en suivant les consultations, on a déjà des petits signes que ça va pas, d'agitation, des enfants qui sont un peu explosés, qu'on n'arrive pas à rassembler, tout ça. Bon, les médecins disaient à 2 ans, c'est normal, ça court partout, un enfant, etc. Bon. Mais il y a des signes plus fins qui permettent quand même de voir que tout n'est pas si simple. Donc moi, c'est à ces 80-85% d'enfants que je m'intéresse et que je suis après. Donc ceux qui peuvent avoir des difficultés modérées ou légères. Et ces difficultés, elles apparaissent pas tout de suite. Enfin, massivement en tout cas, elles vont apparaître au moment des apprentissages scolaires. Alors, la première année, en première année de maternelle, bon, on se dit, il faut qu'ils s'adaptent. Alors, la question des parents, c'est est-ce qu'ils sont prêts ? D'abord, est-ce qu'ils sont propres ? Bon. Est-ce qu'ils sont prêts à se séparer ? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter un peu une loi de la société ? C'est un petit peu ce qu'ils doivent apprendre en première année de maternelle. Donc moi, j'ai un rôle de conseil un peu des familles à ce niveau-là. J'observe les enfants, ben je dis, écoutez, là, c'est peut-être un peu tôt, il faut peut-être mieux attendre, c'est pas la peine de le mettre en difficulté d'emblée, attendons qu'il soit prêt. Donc à 3 ans, ça peut être mon rôle aussi de voir si les enfants sont prêts pour l'école maternelle. Et alors vers 4-5 ans apparaissent les premières difficultés. Moyenne section. Alors moyenne section... J'étais un peu embarrassée. Les enfants ont un retard, mais est-ce que c'est un retard de développement, de maturation qu'ils vont combler parce qu'il leur faut une année de plus que les autres pour faire la même chose? Donc, je suis toujours un peu coincée là parce que les parents me disent alors, ça va? Ben oui, ça va. Mais bon, on voit bien que ça va pas aussi bien que ça pourrait aller, que le graphisme est pas bon, que le langage est pas bon, etc. Et puis après, c'est quand même en grande section que ça va se confirmer ou pas, ces histoires-là. donc en grande section. Moi, je peux intervenir avec mes échelles de Wechsler pour voir si les enfants, il faut les faire passer au CP, les maintenir en maternelle. Bon, j'essaie d'en faire le moins possible, je vous préviens tout de suite. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de psychologues scolaires pour faire ça. Mais quelquefois, je ne peux pas y échapper, parce que je dis ça parce que ce n'est pas ma tasse de thé, ce genre d'approche, mais en même temps, ça donne des points de repère aux familles, aux médecins, ils adorent ça, et bon. Alors, les mamans, oui, je les suis avec... En fait, je vois en général presque tout le temps les mamans et les enfants, et les papas, parce qu'on voit beaucoup de pères, disons surtout dans les débuts. À la fin, il y en a de moins en moins. Mais les deux premières années, j'ai pas refait le compte, mais j'avais fait ça au début. J'avais la moitié des consultations étaient avec des pères quand même, ce qui était un bon, ce que j'estimais être un bon score, parce qu'ailleurs, d'habitude, j'avais pas tellement de pères, donc j'étais plutôt contente. Et donc on les suit. Alors je peux voir des mères en dehors de l'enfant, quand j'ai quand même des mères qui. Bon, je les oriente quand il y a besoin d'un suivi plus régulier, plus spécifique, parce que je ne peux pas dire que je fasse de thérapie hein, ici. Je fais des consultations dites thérapeutiques, comme je sais pas, comme les Bovici nous a appris un peu. Mais alors là, l'autre jour, j'ai reçu une aide d'une mère. La petite fille est en CE1. J'ai suivi depuis le début une 26 semaines, oui, une très grande préma. Et la mère me dit un petit mot, elle me dit, ben voilà, c'est fini, le suivi. Juliette est en CE1, la maîtresse est très contente, ça se passe bien. Donc on ne se verra plus, etc. Alors je voulais quand même, je tenais à vous dire que nos entretiens m'ont appris que je ne serai jamais une mère parfaite, dit-elle. Et depuis ce moment-là, je suis beaucoup plus détendue. Alors, je dois dire, ça m'a beaucoup amusée parce que je ne m'attendais pas à cette réflexion. Bon, j'avais suivi cette mère pour des difficultés assez lourdes. La conclusion me paraissait d'ailleurs un peu étonnante. Mais je me suis dit, finalement, si cette mère considère qu'elle est beaucoup plus détendue, je trouve que finalement, ça n'a pas servi à rien. Donc, ça m'a beaucoup amusée, ce petit mot. J'ai plein de dossiers d'enfants, hein. Mais pour beaucoup, je les ai vus un an, deux ans, et puis c'est fini. Ceux que je vois jusqu'à 6, 7 ans, j'ai essayé de compter hier combien j'avais de filles, mais je n'y suis pas arrivée parce que j'en ai plus de 500. Donc j'ai vu plus de 500, entre 550 et 600 enfants. Mais des enfants que j'ai suivis jusqu'à 3, 4 ans, il y en a peut-être un peu moins d'une centaine. Et jusqu'à 6-7 ans, une cinquantaine. Oui. Enfin, même pas, parce que ça fait 7 ans que je suis là. Donc mes premiers enfants, ils commencent à avoir 7 ans. Mais disons 5-6 ans. Alors, est-ce que les mères restent angoissées longtemps? Oui. Oui, bien sûr. Moi, ce qui me frappait déjà avant d'être ici à Antoine Béclair, dans d'autres consultations que je faisais, c'était de voir, par exemple, des consultations à l'école des parents. J'avais des familles qui venaient me consulter pour des problèmes qui n'avaient théoriquement rien à voir avec la prématurité. Et tout d'un coup, au cours de l'entretien, les mères s'effondraient en larmes en disant et en réévoquant la naissance, l'hospitalisation. Je me disais, oh là là, s'il y avait eu des psychologues dans le service, ça se passerait pas comme ça. Et puis, je vois au fil des années, j'ai encore des mères que j'ai suivies pendant 5 ans, 6 ans, qui au bout de 6 ans, s'effondrent dans mon bureau, en larmes, en me réévoquant la grossesse, ou l'accouchement prématuré, ou le parcours de leur enfant à l'hôpital. Alors ça m'a, là aussi ça m'a rendue prudente ou plus humble sur le travail qu'on fait. Même si on peut dire qu'une l'expression d'une émotion, ça signe pas l'enquistement du traumatisme, mais enfin, bon. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de culpabilité chez ces mères, que théoriquement on travaille un peu. Il y a quand même une difficulté d'investissement de ces bébés chez ces mères, ce qui me frappe aussi. Parce que très souvent, les mères me disent, elles montent un petit peu, pour celles qui ont accouché dans l'hôpital, elles peuvent monter assez vite. Si elles ont une césarienne, c'est un petit peu plus long. Alors elles me disent, ah ben, je suis montée. On m'a dit, bah, c'est celui-là, votre bébé. Ah bon, j'ai dit, c'est celui-là. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a, bon, pour s'approprier son enfant, c'est assez difficile. Donc on essaie de travailler un peu sur tout ça, sur l'investissement. Les mères, elles sont quand même menacées par deux réactions, soit un hyper-investissement, surprotection, justement, en lutte contre leur culpabilité, soit une difficulté d'investissement. Elles ont du mal à reconnaître ce bébé comme le leur. Je me souviens d'une mère qui me disait, quand elle pleure, je ressens rien. Je ressens rien, je suis pas émue. Bon, des petites choses comme ça, ça me revient plus là tout de suite, mais on a quand même beaucoup de mères qui ont des difficultés. Alors ensuite, il y a des difficultés relationnelles avec les enfants qui, je pense, viennent de ces difficultés d'investissement. Alors dans les mois qui suivent l'hospitalisation, alors ces petits bébés, ils sont quand même là aussi, ils sont très différents, parce qu'il y a les enfants qui ont un retard de croissance intra-utérin, donc ils sont un petit poids. Ils arrivent, ils sont tout petits, ils sont tout maigres, ils ont 6-8 mois, mais ils en font 3. Ils sont... Là, je vais un peu dans les généralités, mais je trouve que ça se justifie. Ils sont en général très toniques, très dans la relation, très souriants, avec un regard un peu hyper vigilant quand même, un peu perçant, mais très dans la relation, très souriant. Et puis à côté de ça, je vois arriver des gros bébés, qui sont des anciens prématurés, mais qui ont bien grossi, qui sont gros, qui sont un peu... qui bougent pas beaucoup, qui sont un peu amorphes, je dirais, qui bougent pas beaucoup. Quand la psychomotricienne essaie de faire son examen neuromoteur, ils n'aiment pas trop, ils pleurent, ils n'aiment pas, ils sont pas contents. Et puis, alors, il y a ces petits bébés très vulnérables, très vite débordés, qui arrivent très fragiles, avec des mères, évidemment, qui ont eu de grosses difficultés au retour à la maison. Parce que les mères, elles disent bien, l'hospitalisation, avec l'équipe soignante qui vous soutient, on est quand même assez préparé à la longueur de l'hospitalisation, mais quand le bébé arrive à la maison, on se trouve là dans des difficultés. D'abord, on se trouve un peu abandonné. Il n'y a plus cet environnement très porteur, quand même, des équipes soignantes, maintenant, qui sont quand même très, très présentes. Dans les services, il y a toujours des médecins. En principe, les infirmières sont quand même assez attentives. Ces mères se trouvent un peu perdues. À ce moment-là, il y a des enfants qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, qui pleurent beaucoup, qu'elles n'arrivent pas à consoler. Bon, c'est vrai aussi de mères qui ont accouché à terme et qui rentrent à la maison et qui ont des petits bébés difficiles. Mais il y en a plus quand même dans ces mères qui ont vécu ce parcours et qui sont très anxieuses. Donc celles-là, c'est pour ça que moi j'aimais bien les voir assez vite. Mais je ne les vois pas assez vite en fait. Je ne les vois pas assez vite. J'en avais parlé avec l'Aubier qui, dans le 92, est un centre CMP pour les moins de 2 ans. Et c'est vrai que vers qui j'envoie quelquefois des enfants et des familles, il faut les voir plus vite. Mais bon, les contraintes de l'hôpital, les familles, on ne peut pas non plus les faire revenir trop vite. Enfin bon, si elles n'ont pas de demande, c'est un peu difficile. Ces fameux troubles du développement, alors qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Bon, j'ai dit un peu tout l'aspect cognitif, tout l'aspect comportemental. Alors dans l'aspect cognitif, c'est les études qui le montrent plus que moi dans mon expérience. Je ne peux pas faire de statistiques avec si peu d'enfants. J'ai fait des WIPSI. C'est vrai que les enfants, en général, les enfants que j'ai vus ont des QI un petit peu en dessous de la moyenne. Mais les études, elles sont toutes unanimes et concomitantes, disent qu'en fait, le QI moyen de ces grands prémas est inférieur d'une façon significative au QI des enfants à terme. Alors, c'est quand même une courbe de Gauss, donc elle est décalée vers la gauche, c'est toujours une courbe de Gauss. Donc il y a quand même là-dedans des enfants qui ont un QI tout à fait normal, entre guillemets, et qui vont bien. Il ne faut pas perdre ça de vue. Mais globalement, le QI est inférieur. Savoir s'il récupère, c'est une bonne question. Il y avait des études canadiennes, mais qui sont anciennes, qui montraient qu'il récupérait assez tardivement, 7, 8 ans. Je ne saurais pas répondre à cette question. Je pense qu'il y en a qui quand même restent dans cette zone de QI. Mais je pense qu'en effet, il faut être prudent là aussi et penser que très tardivement, il y a des enfants qui récupèrent, qui font des points de QI, si on peut parler comme ça. Il y a c'est l'hyperactivité qu'on cite toujours par rapport au préma. Oui, il paraît qu'il y en a plus. Oui, c'est possible puisque les études le disent. Je ne sais pas. Moi, dans mes consultations d'enfants lambda, je vois beaucoup d'enfants hyperactifs. Mais forcément, parce qu'on voit les enfants qui posent problème. Donc, j'en vois aussi beaucoup beaucoup. Mais j'ai l'impression que j'en vois pas plus dans mes consultations de grand préma que dans mes consultations lambda, ces enfants hyperactifs. Bon, c'est une impression, mais c'est vrai que statistiquement, il paraît qu'il y en a plus. Bon, ça peut s'expliquer quand même assez facilement qu'il y ait plus d'enfants hyperactifs chez les grands prémas. D'abord parce que ce qu'ils vivent pendant le temps de l'hospitalisation, des stimulations excessives, agressives, douloureuses, on peut penser que ça a des répercussions. Ensuite sur la façon dont ils réagissent dans la vie, et puis aussi des réactions d'omnipotence, de toute puissance qu'on voit aussi chez les enfants à terme, bien sûr, hein. Peut-être il y en a un peu plus chez les prémas, mais là aussi je ne saurais pas affirmer ça d'une manière catégorique, et ça pourrait s'expliquer par le fait que quand même ces petits bébés, quand ils reviennent à la maison, les parents disent il a tellement souffert qu'on ne va pas lui mettre de limite, on est un peu à sa dévotion, on n'ose pas trop agir normalement, enfin comme un parent qui se sentirait bien et autorisé à sévir, à mettre des limites. Donc ça peut aussi expliquer qu'il y ait des enfants qui soient un peu dans la lutte, dans la toute-puissance. Troubles du développement, troubles cognitifs, on parle beaucoup des dyspraxies. Alors là aussi, je suis arrivée, dyspraxie, moi je ne connaissais pas. Alors essayer d'apprendre, mais finalement c'est à force d'observer les enfants. J'y croyais pas trop au début aux dyspraxies, je me disais c'est un concept un peu fourre-tout, on met là-dedans tout un tas de trucs, bon c'est peut-être commode, mais. Et puis à force de voir ces enfants en grande section qui ont des problèmes de graphisme importants, des problèmes en mathématiques, enfin entre guillemets, pour compter, pour dénombrer, je me suis dit qu'il devait quand même, il y en a plus que chez ceux que je voyais avant. Il doit y avoir quelque chose de ce côté-là. Est-ce que c'est neurologique? Est-ce que c'est réactionnel, plus psychopathologique? C'est sans doute un mélange de tout ça. C'est comme l'hyperactivité aussi. C'est un mélange. Alors, des dyspraxies visuo-spatiales, c'est-à-dire les problèmes de coordination oculomotrice, de repérage dans le temps et dans l'espace. Alors, on voit, quand on pose des questions aux parents, est-ce qu'il aime dessiner? Est-ce qu'il aime colorier? Non, il n'aime pas. Il n'aime pas colorier. Il ne peut pas rester dans les limites d'un coloriage, par exemple. Ça déborde de tous les côtés. C'est des enfants qui n'arrivent pas à boutonner, par exemple. S'habiller, c'est très compliqué. Mettre des chaussettes, boutonner, enlever un t-shirt, c'est difficile. C'est des gestes... Ces dyspraxies, on les définit comme une anomalie de la planification et de l'automatisation des gestes volontaires. Bon, alors c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, c'est ce que j'expliquais. Dans la vie de tous les jours, on apprend petit à écrire, à s'habiller, à boutonner, à faire ses lacets. Puis après, on fait ça automatiquement, on n'y pense pas. Eh bien, ces enfants-là, ils sont obligés de dépenser beaucoup d'énergie pour faire ces gestes simples qui ne deviennent jamais automatiques. Et ça, j'y crois maintenant, en fait. Enfin, c'est un peu paradoxal de s'exprimer comme ça, mais j'ai quand même vu des enfants plus grands, en effet, qui sont en grande difficulté parce qu'ils dépensent un temps. Alors, ça les ralentit beaucoup dans leur, dans les productions, par exemple, graphiques, dans l'écriture, et puis ils passent un temps fou et une énergie pour arriver à faire ce que nous, on fait sans y penser. Faire du vélo... Après, conduire. Bon, on apprend à conduire, mais après, une fois qu'on sait, ben, on n'y pense plus à ce qu'on fait. Ben, je crois que c'est ça, les dyspraxies. Enfin bon, c'est ce que j'en ai compris. Et c'est vrai que ces enfants-là... alors, c'est important de les repérer très tôt. En moyenne section, si possible. En grande section, sûrement. Parce qu'il y a quand même des remèdes à apporter. Oui. Il y a des remèdes, on ne peut pas les guérir, hein, ils sont comme ça, on ne pourra pas les guérir, mais on peut leur apporter des stratégies de compensation. Par exemple, pour l'écriture, les enfants les plus atteints, on leur montre l'écriture en parallèle avec l'ordinateur et un clavier caché, ce qui leur permet après de pouvoir à l'école, avec un ordinateur, écrire, et ça se passe bien. Et puis, il y a beaucoup de rééducation d'ergothérapie qui aide les enfants à mettre des stratégies de compensation en place. Et ça, c'est important de le faire avant que le CP n'arrive et que là, la maîtresse dise « ça va pas, il est trop lent », etc. Tous les troubles à expression somatique, type troubles du sommeil, troubles de l'alimentation. Alors, les troubles du sommeil, moi, ce qui me frappait au début, où j'avais pas beaucoup de recul, alors que je voyais beaucoup d'enfants qui sortaient vers 6-8 mois, enfin même avant, vers 3-4 mois, et les mères me disaient, ce qui me frappait le plus, c'était le sommeil diurne qui était perturbé. Bon, je ne sais pas si c'était une originalité Antoine Béclair, mais le sommeil diurne, les mères se plaignaient davantage du sommeil diurne que du sommeil nocturne. Il n'arrive pas à s'endormir, il lutte contre le sommeil, il ne dort pas plus d'un quart d'heure à la fois, enfin voilà, j'entendais beaucoup ça. Des difficultés d'endormissement le soir quand même, hein. Il s'endort que dans mes bras, ou il faut que je le promène dans sa poussette pour qu'il s'endorme, etc. Tous les troubles autour de la sphère orale, ben, il y a beaucoup de reflux, mais il y en a partout maintenant. Mais il y en a aussi beaucoup chez ces enfants-là, sans doute un peu plus. Des vomissements. Alors là aussi, vomissements liés peut-être à des causes organiques, liés à des causes plus psychologiques. Des semi-anorexies d'opposition, un peu, ou chez ces grands retards de croissance intra-utérin, il y a un tel désir de les faire grossir, grandir, manger de la part des familles et de la part des pédiatres. Et on les comprend parce qu'il faut bien qu'ils grossissent ces bébés, que leur périmètre crânien grossisse et tout ça. Il y a une telle anxiété autour de ça que forcément ça rejaillit sur les enfants, hein, et que très vite les petits bébés ils repèrent qu'ils peuvent un peu manipuler leur mère avec tout ça et qu'ils ont un moyen de pression important. Donc ils sont souvent dans la lutte par rapport à l'alimentation, ces petits bébés qui ont des retards de croissance intra-utérin. Ça peut être très long tout ça. Le fait d'avoir du recul, moi, ça m'a permis de dire ça s'arrange avec le temps, ça. Et ça, de pouvoir dire ça, je ne peux pas le dire aux parents au départ. J'étais angoissée comme les pédiatres et comme les mères, parce qu'elles venaient me dire ils ne mangent pas et je ne savais pas quoi leur dire. Maintenant que j'ai 7 ans de recul, je peux être beaucoup plus paisible et leur dire écoutez, pas de panique. Il n'a pas besoin d'être gros. D'abord, s'il grandit, c'est bien. Ça, c'est ce que disent les pédiatres. Ce qui compte, c'est le développement statural, plus que pondéral. S'il grandit, c'est bien. Et puis, j'ai vu ces tout petits bébés devenir des grands garçons et grandes filles. Très grands, même. J'étais étonnée. Ils ne sont jamais gros, mais ce n'est pas grave. Enfin, je ne les ai jamais vus gros. Parce qu'après, il paraît que plus tard, peut-être, il peut y avoir des problèmes d'obésité avec ces retards de croissance qu'on a un peu forcés. Mais moi, ils restent maigres, mais après tout, dans la civilisation actuelle, c'est plutôt une qualité. et ils grandissent bien. Mais il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Donc ça de ce côté-là, je peux un peu rassurer les mères à ce niveau-là, je crois que c'est important. Mais c'est récent, parce que ça n'a été qu'au bout de 6-7 ans que j'ai pu voir le devenir de ces enfants-là. Alors, troubles du sommeil, troubles de la sphère orale, troubles de la sphère anale, constipation, plus beaucoup. Beaucoup de mères disaient constipées. J'ai essayé de réfléchir pourquoi, est-ce qu'il y a des agrippements ou viscères, enfin je sais pas, c'est des hypothèses, j'en sais rien. Ce que je voudrais dire pour un petit peu en résumé, c'est que ces bébés, c'est vrai qu'ils sont à risque de troubles du développement, plus que la moyenne des autres enfants, mais que parmi eux, il y en a une très grande proportion qui se développe très bien, donc ça c'est important à savoir. Que la prématurité, c'est une aventure pour tout le monde, les médecins, les enfants, les familles, mais c'est pas une fatalité non plus. Il y a des enfants qui vont bien. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre en exergue ceux qui vont pas bien. Bon, ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Hein. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le développement du prématuré, de ces enfants qui sont nés prématurément, sont très dépendants de l'environnement. Et ça, c'est vraiment important, l'environnement familial, social, scolaire, médical. Donc, il faut vraiment s'occuper d'eux. Et c'est ce qui rend ce travail d'ailleurs passionnant. C'est parce que justement, on peut faire quelque chose. Et pour finir... Parce qu'on n'a pas beaucoup évoqué les statistiques, parce que j'aime pas trop. Je dirais qu'avec les statistiques, on essaie d'apprivoiser le hasard. Et puis ça marche pas. Ça marche pas. Et j'allais dire, heureusement que ça marche pas. Parce que qu'est-ce que répondre à des parents qui immanquablement vous posent la question, vous qui suivez tous ces petits bébés, dites-moi, est-ce que mon enfant va avoir des séquelles? Que répondre à ces familles-là? Les statistiques sont pas très aidantes pour eux. Donc, heureusement, les statistiques, il en faut, mais il faut aussi des cliniciens qui travaillent un peu différemment. Et il faut se dire que faire grandir un enfant qui est né prématuré, c'est une aventure ouverte. C'est vrai qu'on est confronté à l'incertitude, mais comme pour tout enfant qu'on fait grandir, qu'on élève, on est confronté à l'incertitude. C'est une aventure ouverte qui n'est pas prédictible. Je crois que les statistiques ne peuvent pas régir la nécessité, en fait. Voilà.